Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre podcast numéro 13 sur lequel nous allons revenir sur l'actualité du cinéma asiatique du mois de mars 2014. Pour ce faire, parler des films qui sont sortis en cinéma, en DVD, j'ai le plaisir d'accueillir Alex de Cinasi. Salut Alex.
Bonjour à tous.
Sidi de Ceci dit Obama.
Salut.
Elvire.
Salut.
Nicolas.
Salut.
Justin.
Salut.
Julien.
Salut.
Et Yannick.
Salut.
Très bien. Je pense qu'on entend tout le monde. Ça va. Je n'ai pas l'impression qu'il manque quelqu'un.
Non.
Et c'est justement bien dommage, car le premier événement dont on va traiter, c'est un réalisateur qui, lui, va nous manquer, qui est Alain René, qui s'est éteint le 1er mars, donc en ouvrant ce mois. Et c'est vrai que ça nous semblait important de revenir sur, très brièvement, sur la carrière du réalisateur, non seulement parce qu'il a signé en 1958 un film majeur pour la modernité cinématographique et une œuvre pivot dans les relations cinématographiques entre la France et le Japon, mais aussi parce que c'est un cinéaste qui nous touche, qui nous tient à cœur, et particulièrement toi, Sidi, j'ai l'impression, puisque tu nous as écrit un très bel article qui lui rendait hommage la semaine dernière.
J'espère ne pas être le seul à admirer l'œuvre de René parmi nous, ce serait quand même assez tragique. Mais j'avoue avoir été assez intimidé lorsque vous m'aviez proposé d'écrire cet hommage, parce que Alain René était un cinéaste dont j'avais vu effectivement la plupart des films, surtout les plus récents. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à lui, comme beaucoup, au moment d'On connaît la chanson, son grand succès populaire. Et ensuite, je suis un peu remonté aux origines de son travail. Le fameux film, le moyen-métrage Nuit et brouillard, effectivement Hiroshima mon amour, Marianne Bad. Ce qui est intéressant lorsqu'on m'a proposé cet hommage, c'était de comprendre un peu mieux ce qui me relier à son cinéma. Il y a des auteurs auxquels on est attaché presque naturellement, qui nous accompagnent, genre Romère, genre Chabrol. Et puis il y a des auteurs dont on aime ponctuellement certains films, dont certains nous indiffèrent un peu plus, et dont au moment de la disparition, on se demande un petit peu si on a un petit bilan à faire avec soi-même. Donc ce qui a été intéressant, ça a été de revoir ces films, ceux qui m'avaient le plus marqué notamment, et de comprendre un petit peu mieux quel pouvait être, en tout cas selon moi, le fil conducteur du cinéma de René, et il se fait que c'est un cinéma vraiment très cohérent, je pense de bout en bout, qui a été toujours un peu hanté par cette question de la mort, cette question de l'histoire, même si son cinéma a semblé plus léger dans ses dernières années et qui s'est permis des récréations, notamment sur la bouche, les herbes folles, des films qui allaient un peu du coq à l'âne, il y a toujours eu effectivement cette question de la hantise, cette question des fantômes. Vous voulez me relancer sur certains points? Ça serait...
C'est intéressant justement que tu parles de cette présence de la mort, de cette présence des fantômes. Comme on est sur Estasia, qui est un site de cinéma asiatique, c'est vrai qu'on sait... la manière dont on pouvait en parler, je me suis aussi demandé de quelle manière, outre Hiroshima mon amour, qui a un rapport évident avec le Japon, son œuvre pouvait être en rapport avec l'Asie, ou avait pu irriguer certains cinéastes japonais. Et en parlant de fantômes, c'est vrai qu'on a même posé la question à Kurosawa sur Reel, s'il avait vu Je t'aime, je t'aime, qui est un film qui peut s'en rapprocher, puisque dans Je t'aime, je t'aime, qui est un film de 68, en fait un homme est branché à une machine et voyage dans le temps, et en fait voyage dans ses souvenirs et revit une relation amoureuse. Ce qui fait qu'il y a des thématiques qui sont très proches de Reel. Bon, il se trouve que Kurosawa a oublié apparemment ce film et ne l'a pas vu, mais reste qu'effectivement il peut y avoir une influence souterraine du cinéma de René sur certains cinéastes asiatiques qu'on aime beaucoup. Et je crois qu'on en avait parlé notamment lors du podcast de Hong Sang-soo. Et j'ai l'impression, par exemple, que Smoking No Smoking est une sorte de matrice un peu souterraine, un peu secrète, de beaucoup de films de Hong Sang-soo, dans lequel le quotidien se fait... il y a des multiples possibles qui se créent dans le quotidien, et le cinéma nous les présente tous en même temps. Et notamment dans In Another Country, on retrouve un peu ce même schéma qu'il y avait dans Smoking No Smoking.
Oui. Non, mais je oui. Mais si quelqu'un d'autre veut parler, je veux vraiment pas être dépositaire de la question René.
Absolument pas, j'ai vu qu'un seul film dans ma vie.
Oui. J'ai vu son dernier d'ailleurs. Comment tu pourras interpréter son dernier par rapport à la carrière du réalisateur si tu l'as vu?
J'ai pas encore vu malheureusement son dernier, Mémoire chantée, mais c'est vrai que le précédent. Vous n'avez encore rien vu, m'a vraiment interpellé, dans le sens où j'avais été relativement déçu par Les Herbes Folles, que je trouvais très intéressant, qui m'avait pas déplu, mais où j'avais l'impression que son désir un petit peu de légèreté l'amenait un peu nulle part. C'était un film d'autant plus abouti qu'il pouvait sembler un peu inconséquent. C'est-à-dire qu'une fois vu, j'avais le sentiment qu'il s'était simplement fait plaisir à lui-même et ça ne m'avait que très peu parlé, contrairement au tout précédent. Décidément, je vais remonter encore. Par rapport à Cœur, qui me semblait un film justement où on avait l'impression qu'il revenait un petit peu dans la veine de L'amour à mort au début des années 80, où il abordait un peu le thème de la peur de vivre. Enfin, il y a toujours eu quelque chose de très anxiogène, malgré la légèreté dans son cinéma. Et dans un film comme Les Herbes Folles, où il y avait aussi cette question de l'angoisse profonde qui pouvait nous amener nulle part et partout, j'avais l'impression qu'il se perdait un petit peu, et que, dans Vous n'avez encore rien vu, en recentrant un petit peu son cinéma dans une sorte d'hyper-concept, un cinéaste qui pourrait être lui, un metteur en scène, pardon, qui réunit sa troupe d'acteurs post-mortem pour leur faire rejouer Eurydice, une pièce qu'ils ont jouée pour lui à de nombreuses périodes de sa carrière, j'avais l'impression, effectivement, qu'il réussissait en recentrant un petit peu plus son travail dans un cadre très précis, avec des acteurs très précis, à une exception près qu'il avait employé précédemment. J'avais l'impression que ça lui permettait de retrouver un petit peu plus ce qui a toujours fait son cinéma. Il y a toujours eu un sens du théâtre dans son cinéma, un certain sens de la scénographie, un sens de l'artifice qui n'empêchait pas la profondeur. Et voilà, j'aurais aimé avoir vu son dernier film parce qu'il paraît que ça se rapproche un petit peu aussi de ça, notamment quelqu'un qui réunit aussi des gens avant sa mort. Enfin voilà. Donc toujours.
Quelqu'un a vu le dernier?
Ouais, j'ai vu le dernier, mais ça rejoint exactement ce que tu disais.
Le tout précédent.
Que ce soit dans la forme ou dans le fond, c'est exactement ça. Et je pense que ça te touchera particulièrement.
Bah, j'ai entendu que des avis enthousiastes, et apparemment, si on a aimé le précédent. Tu l'avais vu aussi, le précédent?
Je crois. On n'a pas un souvenir immémorable à l'époque, mais celui-là, en tout cas, il va me rester un petit moment. Il a bien vieilli.
Il va bien vieillir.
Donc son œuvre se termine apparemment avec un film tout à fait digne. Voilà quoi, c'est un film.
Je crois que Libération avait donné un joli jeu de mots en titre, c'était Alain René avec ce film.
Donc, voilà. C'est pas mal. Je crois que je l'avais mis en statut d'ailleurs sur Facebook. Voilà. Donc voilà, non, Alain René, donc voilà, un cinéaste dont on reparlera de toute manière longtemps. Je pense qu'il n'avait absolument rien à envier à certains cinéastes plus officiellement liés à la nouvelle vague qu'on a célébré ces trois dernières années. Et voilà quoi,
c'est vrai que c'est un peu le... Il en reste plus beaucoup, finalement. Il y a Rivette et Godard qui restent en vie. Il y a Chris Marker qui est décédé un peu plus tôt cette année, je crois que c'était...
L'année dernière. 2012.
Voilà, qui est un autre cinéaste. Ouais. Donc, a des rapports évidents avec le Japon, notamment, et sur lequel on n'a pas assez parlé sur les sentiers.
Bah, justement, c'est on peut dire qu'Alain René faisait un cinéma... très français dans la langue, très, très français dans l'esprit. Il y avait un humour qui pouvait sembler un petit peu un humour... Enfin voilà, il faisait un peu un cinéma parfois inspiré de l'opérette et tout ça, mais vu que c'était un cinéaste aussi très soucieux de la question de la forme, de l'expérimentation, on peut comprendre que des cinéastes, du fantastique, des cinéastes d'autres territoires, aient trouvé de l'inspiration justement dans ces films, que ce soit les anciens ou les actuels, parce que c'est vraiment un cinéaste qui a... Je ne sais pas s'il a voulu fuir le naturalisme, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait le film Deux pièces cuisine, qui rebute certains. C'était vraiment un cinéma qui était en quête permanente de la réinvention de la scène, de la réinvention des formes. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il était un éternel jeune homme. On dit aussi ça de Manuel d'Oliveira, un peu tous les cinéastes qui ont dépassé les 80 ans et qui tournent régulièrement. Mais je pense qu'effectivement, il y avait une vraie jeunesse dans son cinéma. Ne serait-ce que le titre de son dernier film qui donne aussi un sentiment de vouloir aller de l'avant toujours sans pour autant oublier, puisque la question de la mort est encore là, la question de la vieillesse est encore là, l'idée que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc il y a vraiment un côté fête du cinéma dans son art qui je pense manquera beaucoup au cinéma français, mais pas que.
Alors nous allons parler de la transition et la difficile à trouver entre justement le cinéma d'Alain René et un autre film qui n'est pas du tout un cinéma français de deux pièces cuisine, qui est The Raid 2, parmi les événements du mois de mars.
La transition me semble évidente.
Je suis sûr qu'Alain René aurait été très déçu, justement, du fait que The Raid 2 soit déplacé en juillet, alors qu'il devait sortir. Donc la date officielle, c'était Nicolas
Je ne connais pas exactement, mais c'était en avril.
C'est 23.
Ouais, 23.
Et donc le The Raid 2 est finalement, non, il l'aurait quand même pas vu malheureusement, ouais, est finalement décalé au 17 juillet. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas? J'ai l'impression que tu n'étais pas très content quand tu as appris la nouvelle.
Bah, disons que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, j'ai envie de dire, parce que comme le film va sortir à peu près partout d'ici fin mars là, et mi-avril, on est un peu la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire. Donc du coup, comme on sait que maintenant, avec les moyens d'aujourd'hui, Internet, tout ça, il est facile d'accéder par des moyens légaux à certains films, je pense que c'est en plus ce style de film là est propice à ce genre d'acte là, donc je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied et qu'à cause de ça ils vont perdre un certain succès, quoi.
Globalement, la sortie américaine a lieu en ce moment, donc avant la sortie française le film sera disponible en DVD import et donc illégalement sur toutes les plateformes de téléchargement sous-titré. Voilà. Quelles sont, Julien, les raisons pour lesquelles le film est repoussé?
J'ai des raisons qu'on n'a pas le droit de dire dans un podcast. Tu les auras pas.
Non, mais la raison officielle.
La raison officielle, c'est que la sortie française était trop proche, en fait, de la sortie américaine. Ça, c'est la raison officielle. Et qu'ils n'avaient pas eu le temps de préparer, en fait, le terrain pour, en fait, faire tout ce qui est la public de le marketing au niveau de l'affichage et tout. Ils n'avaient pas assez de temps, de toute façon, Wellside, c'est pas non plus un éditeur qui a beaucoup de temps, ils sont toujours pressés, que ce soit pour les sorties DVD ou pour les sorties cinéma.
Après, je dirais quand même que le point positif, c'est qu'il va sortir au milieu de l'été, que c'est quand même un gros blockbuster d'action estivale. Je pense que les amateurs qui ne sont pas forcément très fans de films de genre, c'est pas forcément vous qui nous écoutez, mais disons le grand public va peut-être voir juste The Raid 2, un gros film d'action qui joue dans les salles sur l'été, il va certainement s'y ruer, Alex.
Ouais, le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis l'été représente la grosse période cinéma où tous les plus gros blockbusters sortent l'été. En France, pendant l'été, les gens ils vont un peu au ciné et beaucoup en vacances. Donc au mois d'avril, ils vont beaucoup au ciné et un peu moins en vacances. Après, j'espère pour le film que ça va quand même lui réserver une certaine carrière. Mais effectivement, j'ai un petit peu peur que cette sortie tardive plombe un peu une partie du film par rapport au public visé naturellement par ce genre de production. Et qui du coup va encore plus le voir illégalement.
Bon, en tout cas, public visé, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas forcément vous interdire de télécharger, mais en tout cas d'aller le voir en salle, sur grand écran, quand il sortira en juillet.
Bah, de toute façon, un film est toujours mieux, à moins que vous ayez chez vous une salle de cinéma, un film est toujours mieux au cinéma que sur votre écran d'ordinateur.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, ça n'empêche pas les gens aussi, il y en a beaucoup qui font ça, qui vont d'abord le télécharger, le voir, et puis après le revoir au cinéma. Mais bon, c'est mieux de le découvrir au cinéma.
Et donc, Nicolas, on peut lire actuellement ta critique du film que tu auras vu à Beaune, enfin pas lors de l'enregistrement du podcast, mais lors de sa mise en ligne, il y a ta critique qui est juste à côté de The Raid 2. Donc, parce que le film passe à la fois à Beaune et à la fois au BIF, d'ailleurs, Yannick.
Ouais, ouais, ouais.
Je croyais qu'il était parti.
Bah non.
Yannick, on va te faire parler un peu sur le troisième événement, en fait, donc qu'on a sélectionné, qui est donc la semaine dernière, on a eu la première bande-annonce officielle du film Tortue Ninja, produit par Michael Bay. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que t'attends ce film?
Alors, j'ai vu la bande-annonce. Et je l'attends à peu près autant qu'un ongle incarné, quoi.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a pas plu forcément dans cette bande-annonce?
Moi j'ai grandi avec le dessin animé, qui est déjà une trahison du comic originel, puisque rendu beaucoup plus enfantin. Et là, on a Bah, une adaptation qui semble rester dans l'esprit enfantin, mais en rajoutant le côté bouffe et bas du front et bah, de Michael Bay, quoi, qui va, enfin, non, quoi. C'est, je veux dire, les explosions au ralenti, les gueules de crétins des Tortues Ninja, c'est pas trop ce que j'espère dans une adaptation de ça, quoi. C'est encore mon enfance qui va se faire martyriser de manière assez sévère, je pense, sur ce coup-là.
Sidi, tu me disais que t'avais, la bande-annonce t'avait agréablement surpris avant de venir.
Ah, mais les Tortues Ninja, c'est une longue histoire d'amour. Pour moi, je sais qu'il y avait eu une première adaptation, je crois, en 1990. Steve Barron, c'est ça. Voilà, qui m'avait pas déplu, que j'étais allé voir, je crois, avec ma classe. Ça, voilà, c'est ça, ça nous rajeunit. Et voilà, non, j'ai une certaine excitation. Dieu sait que Michael Bay, c'est pas non plus trop mon délire. Je n'ai vu qu'un seul Transformer, alors je crois qu'il y en a déjà 4 de sortie.
Trois et demi.
Quatrième arrive.
Voilà. Apparemment.
Jusqu'à épuisement. Hein.
Voilà, ça, jusqu'à la fin de jusqu'à.
Et le quatrième est un plus ou moins reboot, apparemment.
Oui. Avec à nouveau Megan Fox, c'est ça?
Non, ils ont viré tout le monde.
Voilà.
Megan Fox et. Voilà. On a pris une blonde à la place.
D'accord, c'est une part de ma vie de jeune adulte qui s'en va.
Avec les
rire.
Avec Megan Fox.
Non, avec le changement radical de. Voilà, petit bide, mais c'est pas grave. Non, oui, les Tortues Ninja, bah, je suis assez curieux quand même de voir cette adaptation. Je suis sûr que ce sera un film assez mineur, mais voilà, quoi. Pour ce que j'ai vu dans le teaser, je crois que là, pour le coup, il y a Megan Fox, non?
Oui.
C'est ça,
Voilà.
j'ai hâte de voir un peu Splinter en mode synthèse numérique.
Pas l'impression qu'il y ait Splinter.
Ah bon? Bebop et Rocksteady. Enfin voilà, j'ai rien de très profond à dire là-dessus, mais je pense que je serai au rendez-vous quand même. Voilà.
Justin?
Non, moi ça m'a semblé pourquoi pas, parce que les rares fois où il a été juste producteur, parfois il a réussi à relancer les franchises qu'on pensait un peu perdues. Son remake, le premier remake là, de Massacre à la tronçonneuse, qui était vraiment, vraiment bien, bien poichu, c'était quand même dans l'esprit. Et puis bon, la bande-annonce, sur les 30 secondes, ça a l'air, l'humour a l'air quand même dans l'esprit du dessin animé. J'aime bien les tronches des Tortues Ninja. Après, c'est juste le côté blockbuster gros, même la musique, ça sent encore le Hans Zimmer. Espèce de gros. Espèce de musique interchangeable de blockbuster. Mais après, dans l'esprit, ça a l'air assez drôle. Puis à la base, le film n'était pas inoubliable quand même, ni la série. Ni le dessin animé, c'était...
Ah non, le dessin animé, bon, je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, mais...
Même le film, n'est pas inoubliable non plus, donc c'est pas intouchable.
Justin, le mec qui te détruit tes mythologies, comme ça, je proteste.
Bah, non. Moi, j'ai revu, c'est pour ça, j'ai revu. Quand tu revois,
tu as revu le dessin animé, tu as revu la série?
J'ai revu les deux.
Et ça t'a laissé insensible.
C'est pas, à part l'effet Madeleine de Proust, c'est pas non plus intouchable.
Oui, mais voilà, quoi. Non, pourquoi détruire à tout prix?
Mais faut pas revoir la comme ça, parce que après tu te rends compte qu'à l'époque que c'était pourri, quoi. Que c'est aussi pourri que ce qui passe maintenant pour les gamins, que Dora et les trucs comme ça. C'est juste que à l'époque on trouvait ça fantastique, et tu te rends compte que finalement Olivier Tom, c'était une catastrophe, et que le terrain il faisait 120 km. Tu te rends compte que
on arrive dans un terrain glissant là, quoi. Bon, autant les Tortues Ninja, ça a vraiment très mal vieilli, autant Olivier Tom,
par contre, ils avaient fait un dessin animé en
j'ai pleuré, quoi.
Ah oui, c'est horrible. Ah oui, là, on voyait jamais Jace et des trucs comme ça, animation.
Je pense sérieusement qu'à la fin de ce débat, beaucoup de personnes ne se serreront pas la main, parce que remettre en question les Tortues Ninja, c'est déjà délicat, mais Olivier Tom, voilà, quoi, j'ai voulu jouer au foot. Aujourd'hui, le foot m'intéresse peu, mais à une époque, j'ai vraiment voulu devenir Maradona, en regardant les frères d'Eric en train de faire la catapulte.
Essayer de faire le tir de l'aigle et tout ça.
Ben voilà, quoi, c'est pas possible de remettre en question Et même si c'était laid, j'ai revu Nicky Larson il y a quelques années. Effectivement, les filles ne sont pas aussi jolies que je le pensais.
C'est pas pareil, Nicky Larson.
Déjà, c'était réhabilité. Ah, bah, voilà.
En plus, c'était censuré dans tous les sens, alors que à la base, c'est quand même.
La version Club Dorothée, c'est.
Oui, c'est charcuté, il ne restait pas grand-chose.
Je vous propose de faire un spécial podcast, un spécial manga. Est-ce que la nostalgie est compatible avec la cinéphilie quand on parle des séries de
très bien.
Par contre, toujours sur Tortue Ninja, ils avaient fait un dessin animé aussi en 2007 qui était sorti en salle. Qui était vachement bon, j'ai trouvé ça pas mal. Ils avaient réussi à peu près.
J'ai dit que c'était moyen.
Ils avaient rendu ça un peu dark, un peu dans le mode un peu la mode actuelle, un peu sombre. Mais ça passait bien quoi.
Oui, ça, moi je m'étais dit en voyant justement les Tortues Ninja que j'étais trop vieux pour ces conneries en fait. Justement en allant voir en 2007 le dessin animé en salle.
J'ai trouvé c'était bien.
Il faut quand même dire qu'Alain René est un cinéaste vraiment surfait.
C'est pas des remises en cause.
Nous allons passer à la deuxième partie. Et aux films qui ont marqué ce mois de mars, ça va être tout de suite un peu plus sérieux, je pense. À tout de suite.